Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, il n'y a pas de nom plus grand que le tien. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il n'y en a point d'autre qui soit digne d'être loué, adoré, remercié. Il n'y en a point d'autre qui a fait tout ce que tu as fait pour l'humanité afin de nous sauver. Il est vrai que beaucoup ne prennent pas cela à cœur. Que beaucoup ne veulent pas croire, que beaucoup veulent continuer leur vie de vanité. Mais pour ceux qui acceptent, Seigneur, tu leur assures une vie éternelle, une vie merveilleuse. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Merci parce que lorsque on te connaît, Seigneur, c'est la joie, c'est le repos, c'est la paix. Tu es merveilleux, Seigneur, parle-nous encore. Parle-nous à cette heure, Seigneur, et glorifie ton nom. Au milieu de nous ce matin, merci Jésus, merci. Nous lirons dans le livre de l'Exode au chapitre 8, au chapitre 20 plutôt, verset 8. Exode chapitre 20, verset 8, 8 à 11, nous lisons. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. L'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Nous lirons encore dans, toujours Exode, chapitre 33, verset 13. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel avec toi, c'est le repos. L'Éternel avec nous, c'est le repos. Oh, repos. Repos, mot que l'on aime entendre après une journée de travail pénible. Repos, lorsque le corps fait mal, les muscles font mal, et qu'on a peiné pendant toute la journée. On attend avec anticipation ce temps d'arrêt. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la plus belle, la plus douce mélodie qu'il y ait sur la terre? J'entends par là la mélodie la plus reposante et bienfaisante à l'équilibre humain. La mélodie qui, pour ainsi dire, nous procure du repos. Qui dépasse toutes celles que l'on entend, qui dépasse celles des orchestres symphoniques, de belles musiques, qui dépasse forcément la musique, entre guillemets, endiablée de nos orchestres modernes, qui ne procure aucun repos, mais qui énerve. Quelle est là cette musique qui, pour ainsi dire, est
pour l'âme qui cherche sa source, sa ressource et sa communion avec Dieu. La mélodie la meilleure, c'est le silence. Ah, le silence, est-ce une mélodie? Le silence n'est jamais silence absolu. Le silence s'écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu le silence. Mais le silence s'écoute. Asseyez-vous tranquillement dans les grandes plaines. On entend le vent dans les grandes herbes qui soufflent calmement, les oiseaux qui chantent ici et là. C'est le silence. Mais le silence harmonisé par le Dieu de la nature. Asseyez-vous sur un vieux tronc pourri au milieu de la grande forêt. C'est merveilleux que d'écouter. Oh, je sais que ceux qui sont noyés dans les bruits incessants des grandes villes ne savent pas ce que c'est. Mais je vous dis ce que c'est, que cette harmonie du silence. Assis là sur ce vieux tronc pourri au milieu d'une végétation luxuriante, ce sont de multiples grillons et cigales qui chantent, des oiseaux de toutes sortes qui volent d'un arbre à l'autre, quelques sauts d'un troupeau de singes d'un arbre à l'autre, un peu plus loin. Peut-être c'est le bruit de l'eau paresseuse qui saute d'une pierre à l'autre en suivant son cours et en arrosant la terre. C'est la plus belle des mélodies, la chanson la meilleure, qui n'a pas besoin de partition ni de chef d'orchestre, mais qui est l'expression du cœur de Dieu. Dieu s'entend, Dieu se voit. Il se voit dans ses œuvres, il se voit dans sa nature. Il se voit dans la mélodie qu'on n'entend plus dans les grandes villes affairées par le bruit que font les hommes. Un bruit qui fatigue, mais le silence de Dieu ne fatigue pas. Alléluia. Ça m'est arrivé une fois d'entrer dans un silence absolu. C'est lorsque nous sommes descendus avec ma femme dans une énorme caverne qui a des kilomètres et des kilomètres, on peut marcher des kilomètres sous terre. Et là, on a éteint toute lumière, on a dit aux gens, taisez-vous. Silence absolu. Mais sur la terre, à la surface de la terre, le silence absolu n'existe pas. Mais les hommes aujourd'hui ont peur de se trouver dans le silence. Ils fuient le silence, car ils fuient la voix de Dieu. Quand on est dans un milieu plein de bruit, on ne peut entendre la voix de Dieu. Et plus les hommes s'éloigneront de Dieu, plus ils fuiront le silence. Ils ont besoin du bruit. Ils ont besoin des baffes ouvertes au maximum, qui crachent leur son discordant, grésillant, mal accordé dans la rue. Ils ont besoin de cela. Ceci, c'est une preuve qu'ils sont loin de Dieu. Là, dans le silence, nous avons l'expression de Dieu, la mélodie de la vie. La vie chante une douce mélodie. Dans la nature, on voit Dieu. On entend Dieu au fond de son cœur. Mais les hommes ne veulent pas l'écouter. Ils se noient dans le bruit. Le bruit fou, insensé des foules, des distractions, de la musique folle, de l'agitation. Ils ont peur du silence, ils ont peur du calme. Le bruit les dérange. Il faut la foule qui passe. Il faut le brouhaha des conversations multiples. Le vacarme des voitures qui passent. Et les cris des chauffeurs qui s'insultent. Douce mélodie du silence, du repos. Où es-tu, repos, dans notre monde moderne? Où es-tu? Sachez que le manque d'espace libre, le manque d'horizon lointain, le manque de solitude, où on est seul avec Dieu et avec sa conscience, le manque de silence et de repos déséquilibre l'homme moderne. Il devient un névrosé. Les hommes dans nos grandes villes deviennent des névrosés, des malades des nerfs. Voilà ce que c'est. À n'importe quel niveau que ce soit, les hommes sont des malades de nerfs, des nerfs. Ils sont là au bureau, ils sont là dans leur travail, ils sont là dans leurs activités, mais ils sont malades nerveusement. Ils n'ont aucune résistance. Ils n'ont aucune patience. Ils se mettent à crier pour n'importe quoi. Ils fument cigarette sur cigarette. Ils disent que ça les calme. Quel mensonge! Les voilà qui vont et viennent sur la route. Les nerfs leur font mal. Et encore la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Ils prennent des cachets pour dormir et ils prennent des cachets pour se réveiller et se stimuler. Déséquilibré, déséquilibré. Ça, c'est le monde de nos grandes villes et de notre vie moderne sans Dieu, où on ne sait plus écouter, où on ne sait plus entendre le silence. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de repos au régime accéléré de la vie moderne. C'est le travail, les affaires, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Les préoccupations, les problèmes, submergés. Et dans les rêves, on voit encore tous les problèmes de la semaine. Et quand on est couché, on ressasse et on ressasse ces problèmes de la semaine. On ne coupe jamais avec les choses mauvaises et les choses négatives. On ne s'est pas arrêté. Et dire maintenant tout ça de côté, le repos. C'est pourquoi nous sommes des névrosés. Un névrosé est incapable de conduire sagement et de façon intelligente quoi que ce soit. Dieu a dit, il y aura un jour de repos. Il y a plus que le travail dans la vie. La vie dans ce monde n'est que courir continuellement pour attraper quelque chose. Jamais de satisfaction. Si elle n'est qu'agitation, lutte, pression, passion de toutes sortes, obligation, combat de toutes sortes, elle ne peut être agréable et le résultat sera qu'elle sera raccourcie. Combien d'entre nous aurions pu vivre bien plus longtemps si nous avions vécu selon ce que Dieu nous recommande dans sa parole? Combien d'entre nous supprimons les années de notre vie par notre façon de vivre névrosée et notre vouloir de toujours courir après quelque chose, attraper quelque chose d'insaisissable et quelque chose qui nous satisfait jamais. Ecclésiaste 2, versets 18 et 19, il est dit, « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore une vanité. Je travaille, j'étudie dur pendant des années, enfin quand j'ai tous les diplômes et les doctorats et les maîtrises que j'ai voulu, je suis déjà âgé peut-être de plus de 35 ans. Si je suis arrivé Après cela, que reste-t-il de temps pour travailler? 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans. Il y en a beaucoup qui prennent la retraite, ils disent qu'ils sont fatigués. Toute cette peine, pourquoi? Amassé peut-être que j'ai réussi dans mon métier. J'ai ramassé des richesses, j'ai amassé des maisons, j'ai amassé des comptes en banque, j'ai amassé des valeurs. Et puis quoi? Tu n'as fait que de courir et de courir du matin au soir, de courir la nuit, de parcourir le monde pour découvrir qu'après tout, tout est vanité et vanité est poursuite du vent. Ce que tu as amassé, tu ne vas même pas en jouir. Nous connaissons des hommes qui ont vécu au milieu de notre nation, qui n'ont cessé d'amasser et d'amasser. Et aujourd'hui, alors qu'ils sont disparus, où est cette richesse? Qui en jouit? Jouir? Ils n'en jouissent même pas. La plupart est déjà dilapidée et réduite en poussière. Et personne n'en jouit véritablement. Gaspillage, gaspillage, gaspillage de temps, sans repos. Les hommes vivent comme s'ils étaient toujours sur la terre et seraient toujours sur la terre. Cette vie est déjà si courte. Pourquoi vouloir encore la raccourcir? Tout ce que j'accumule, je dois le laisser un jour. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi pas jouir du temps que j'ai maintenant? Et donner à ce temps sa part de repos. De repos comment? Au milieu d'un orchestre qui me casse les oreilles? De repos comment? Avec des verres de bière les uns après les autres? Et de l'alcool? Non! En sanctifiant le jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le jour qu'il a mis à part, notre vie ne peut être seulement que production, rendement, compétition, gain ou perte. Si c'est que ça, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Car il n'y aura pas de satisfaction ni de joie. Mais Dieu est là et nous enseigne comment vivre. Avons-nous appris à vivre? On peut se poser la question dans notre monde super éduqué, super diplômé, super intelligent, qui trouve des choses de tout genre. Avons-nous seulement appris à vivre? Pensez donc, rien que sur l'Internet, cette chose extraordinaire qui communique en quelques secondes avec le monde entier, on arrive à y mettre des virus. L'Internet est malade. Un petit plaisantin quelque part, un petit malin quelque part, a réussi de mettre un virus là-dedans, avec un gros mensonge. I love you. Et dans le fond, il se moque de tout le monde. Il se moque de tout le monde et met des millions d'ordinateurs en panne. J'ai eu 4 messages dans mon ordinateur cette semaine avec « I love you ». Mais grâce à Dieu, je me suis méfié. Je ne savais rien du tout. J'ai lu d'abord les messages des personnes que je connaissais. Et l'une d'elles me disait « Faites attention, si vous recevez tel message, sachez qu'il y a un virus, ne l'ouvrez pas, effacez-le ». J'ai dit « Seigneur, merci ». Et je les ai effacés les 4. Dieu avertit ses enfants. Oh, mes amis, nous sommes intelligents, nous avons de la connaissance, nous travaillons, nous accumulons des biens, nous accumulons tant de choses, tant de choses, tant de choses, et nous ne savons même plus vivre, et nous nous laissons manipuler par des gamins qui veulent nous embêter. Ça, c'est sur l'ordinateur. Avec l'Internet, mais il y a des cas beaucoup plus graves. Quand des milliers d'hommes et de femmes meurent. Pour rien. Pour rien. Notre vie ne peut être que seulement production, rendement, compétition, gain. Il y a plus que cela. Car nous ne sommes pas des robots et des machines. Il n'y aura pas de satisfaction ni de joie. Dieu est là et il nous enseigne comment vivre. Ecclésias nous dit encore une parole de sagesse au chapitre 2, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ah, l'homme, c'est pas un robot. Vous en rendez compte, c'est pas une machine. Dans une machine, on ne peut pas le mettre à la pensée de Dieu ni à la pensée de l'éternité. Alors, ô homme, sache donner à cette pensée de l'éternité une place. Un homme qui ne donne pas de place à la pensée de l'éternité dans son cœur ne sera jamais heureux. Jamais. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout homme a la pensée de l'éternité. Alors, arrête-toi dans le silence. Et laisse la pensée de l'éternité œuvrer en toi et te mettre en face de ta conscience et en face de ton Dieu, de ton Créateur. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin, l'homme ne peut saisir tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait. Il ne peut l'appréhender, il ne peut en comprendre le comment et le pourquoi. Il n'en voit qu'une toute petite partie, ce qu'il peut supporter. Mais ceci n'empêche pas que tu as la pensée de l'éternité en toi. Alors, cherche Dieu. Mets un temps à part pour lui. Le gain n'est pas forcément de l'argent qui entre dans la poche. C'est en premier le gain. En premier, c'est connaître Dieu. Le gain, c'est d'abord le bonheur, le vrai. Que le bonheur que Dieu donne. Ensuite, c'est la santé, le gain. Pourquoi se détruire le corps avec de la cigarette, avec de la boisson qui détruisent votre cerveau, avec des drogues, avec des abus de tout genre? Pourquoi? Non. Donne ce qui est à Dieu à Dieu. Et Dieu a dit, après 6 jours de travail, il y a un jour de repos, et ce jour, tu le sanctifies, car moi, je l'ai sanctifié. Alors, tu auras du gain. Ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Santé, équilibre, harmonie, paix, bonheur. La présence divine donne le repos. Ô Seigneur, avec toi, même dans un travail que je dois faire, qui me donne beaucoup de peine, ta présence, Seigneur, c'est le repos dans mon esprit, le repos dans mon âme. Je suis capable de travailler dur, c'est vrai, mais tout en travaillant, mon esprit et mon âme sont en repos. Et c'est pourquoi mon travail est beaucoup plus efficace que celui de l'autre qui le fait alors qu'il est troublé dans son esprit et son âme. L'homme n'est pas une machine. Nous avons tous besoin d'un temps à part, un changement, du calme, du silence, du repos. C'est là que le 4e commandement trouve tout son sens et sa raison d'être. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Être assis dans un grand fauteuil avec la télévision en marche, ce n'est pas le repos. Moi, je l'ai remarqué pour moi. Quand j'ai travaillé, etc., et que je me mets chez moi à la maison, et que je mets la télévision, peut-être qu'il y a un programme intéressant, je le suis, mais ça me repose pas. Ça me repose pas. Je l'ai expérimenté. Ça me repose pas. Je l'ai expérimenté. Si je veux le repos, faut éteindre tout. Radio, télévision, ces bruits, ça m'énerve, ça m'agace, ça ne me repose pas. Bon, vous êtes jeune, vous supportez mieux, mais vous allez voir dans quelques années. Vous allez rechercher l'harmonie et la symphonie du silence, qui va vous reposer, vous redonner de la force. Dormir quand il y a du bruit, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est simple. Mon corps, il veut le repos. Mon esprit, il veut le repos. Mon âme cherche le repos en l'Éternel. Si j'ouvre ma Bible et que je lis là, à ma table, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. La maison est calme et je lis la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui me donne le repos. Il n'y a pas de bruit autour de moi. J'aime bien les premières heures du matin. Là, rien ne bouge. Même dans la rue, c'est calme. Et pourtant, là, Dieu parle fort. Alléluia. Et cette voix, c'est une voix qui communique le repos à l'âme et qui donne la force pour le jour qui vient. Sans interruption. Dieu a voulu l'interruption. Il nous faut comprendre. Il faut prendre du temps pour s'arrêter, pour prendre du recul, pour, comme on dit, décompresser, pour se reposer. Si nous ne prenons pas le temps pour ralentir, alors quelqu'un ou quelque chose viendra pour nous ralentir. Et ce quelque chose peut être la maladie. Il y a des hommes qui sont des alcooliques du travail. Vous savez, il y en a qui boivent et qui boivent, on les appelle des alcooliques tout court. Mais il y en a qui travaillent comme des machines sans prendre du repos. On les appelle des alcooliques du travail. Eh bien, ces alcooliques du travail, un beau jour, ils vont être arrêtés par une maladie. Cycle normal. Cycle normal. Dieu a mis des limites en nous. Des limites pour notre vie, des limites pour notre travail, des limites pour notre autorité, des limites pour nos responsabilités. Dieu ne veut pas qu'un homme porte tout. Dieu veut que tous ensemble portent la charge. Ah, il est facile d'abandonner la responsabilité aux autres quand on est un lâche. Mais Dieu n'a pas besoin de lâche. Dieu a besoin d'hommes qui se partagent la tâche. Chaque jour de la création, lorsque Dieu a créé, au commencement, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Il est bon que le travail ait ses limites. Dans ce commandement, la vie humaine est dans un contexte d'équilibre. Et c'est ça que nous devons comprendre. Il y a un équilibre. Et si nous n'avons pas cet équilibre, nous allons perdre. Cet équilibre est voulu par Dieu, est voulu de Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu et le servir. Dieu ne nous appelle pas à être des insensés, mais il nous appelle à réfléchir, à la réflexion. Dieu nous appelle à l'adorer et à le servir. Il nous appelle à la sensibilité, au travail et au repos. Nous avons besoin d'un temps de calme après 6 jours de travail, de lutte, de peine intense et de problèmes, afin de faire le bilan et de retrouver l'équilibre devant notre Dieu, nous qui avons cru, pour que notre vie retrouve son sens. Les problèmes, nous les avons abandonnés le samedi soir. Et le dimanche, nous n'avons plus de problèmes. N'est-ce pas que c'est comme ça? Nous n'avons plus de problèmes et nous ne laissons pas les problèmes rentrer dans notre maison. C'est le jour du repos. Le lundi, nous comprendrons beaucoup mieux notre problème pour le solutionner parce que nous aurons passé par le repos et nous aurons été en contact avec Dieu. Une vie sans équilibre s'use vite. Ceci est reconnu. Le repos est une chose sacrée et voulue de Dieu. La Bible nous parle beaucoup de repos. Elle nous appelle à entrer dans son repos. Hébreux 4, 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ici, il s'agit plus que du repos hebdomadaire physique. Mais il s'agit du repos de l'esprit et de l'âme, même au milieu du travail le plus intense. La vie ici-bas est un constant combat. Travail, pas toujours productif, mais travail quand même. Un travail et une fatigue, voilà la vie de l'homme. Le repos est aussi un état de non-conflit, un état de non-guerre, un état de sécurité, le repos. C'est aussi un état de calme. Pour l'instant, notre pays n'est pas dans le repos. Il n'est pas dans le repos. Il est dans l'anxiété. Il est dans le malheur. Mais pour avoir le repos, il faut la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dieu a planifié notre temps. Dans les prévisions de Dieu, il y a un temps sacré pour le repos. La super activité n'est pas forcément ce que Dieu veut. Il veut l'équilibre. Il veut le repos du sabbat. Et que ce repos du sabbat fasse partie de l'ordre établi par Dieu dans la vie de l'homme. Les hommes et les femmes ne sont pas des instruments, des outils de travail. Non. Prêtons attention à l'équilibre que Dieu a voulu pour chacun de nous dans notre vie. Ne pas prêter attention à cet équilibre nous fait tomber dans le déséquilibre. Elle fait de nous des névrosés. Vous savez qu'il y a eu des sociétés, comme par exemple les sociétés athées, qui ont dominé certaines parties du monde, qui ont voulu supprimer le septième jour du repos, soi-disant que cela était une tradition dite chrétienne, étant donné que le christianisme n'existe pas pour eux, sinon que le matérialisme, ils ont voulu supprimer le septième jour, et ils l'ont fait. Et ils ont obligé tout le monde à travailler, disons, pendant 15 jours avant d'avoir un jour de repos, pour augmenter le rendement. Augmenter le rendement, la preuve a été donnée que, au contraire, ça a fait la diminution du rendement. Ah! Vous vous rebellez contre les lois de Dieu. Dieu a dit un jour de repos après 6 jours de travail. Vous dites non, nous savons mieux, nous voulons du rendement. 15 jours de travail à 1 jour de repos. La production est tombée. Merci Seigneur. Mais, avertissement, ce n'est pas non plus une porte ouverte pour la paresse. Ah. Proverbe 6, 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La paresse est un péché. L'équilibre, voilà ce que nous prêchons, frères et sœurs. Pas n'importe lequel, mais l'équilibre de Dieu. Le repos n'est que plus meilleur quand la tâche est faite. Quand nous avons fait ce que nous devrions faire et que nous prenons le repos est magnifique. Voilà. Le nécessaire, comme exprimé dans la loi, est que nous avons un temps de repos. Dieu a voulu 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est une chose sérieuse de laquelle nous sommes personnellement responsables. Un jour de repos. Et ça, les Juifs le savaient. La loi l'enseignait. Ce jour était sacré. On cesse tout travail. L'homme, la femme, les enfants, les ouvriers, l'étranger, le bœuf, l'âne, les animaux. Repos, repos, repos. C'était la loi. C'était la loi. On devrait réapprendre ça, n'est-ce pas? Et c'est devenu même une tradition tellement stricte que quand Jésus est venu et qu'il guérissait un malade le jour du sabbat, c'était un scandale. Oh, les légalistes, ils vont toujours plus loin que ce que Dieu a voulu. Les légalistes. Terrible, hein? Lorsque Jésus a guéri la femme courbée, quel scandale! Lorsque Jésus a guéri l'homme au bras qui était sec, il lui a dit « Étends ton bras dans la synagogue au jour du sabbat. » Mais c'est épouvantable. Il a violé la loi. Hein? Alors Jésus leur dit « Mais lorsque vous avez du bétail, vous leur donnez à boire le jour du sabbat, pas vrai? Et lorsque votre bœuf tombe dans une fosse le jour du sabbat, vous allez bien le retirer de la fosse? Ou votre âne, ou votre mouton, vous allez bien le faire? Ne fallait-il pas faire cela pour cette femme qui est fille d'Abraham? Légalisme! Frères et sœurs, le légalisme n'est jamais, jamais ce que Dieu veut. Le légalisme s'appelle aussi fanatisme. Et jamais Jésus n'a enseigné le fanatisme ou le légalisme. C'est vrai que la loi nous parle du repos et que nous devons l'observer. Mais eux, ils allaient tellement loin. Quand Jésus passait dans les champs avec ses disciples le jour du sabbat, ils étaient autorisés à faire qu'une certaine distance le jour du sabbat. Les disciples, en passant, ont pris des épis, et ils les broyaient dans leurs mains pour manger les graines. Les pharisiens, les scribes, ils sont là, crient « Oh, scandale !» On ne doit pas prendre des épis le jour du sabbat. Stupidité. Qu'est-ce que Jésus leur a dit alors? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ah! Vous voyez, la loi veut toujours nous dominer. Mais non, la loi a été mise au service de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est au service de la loi. Et si l'homme obéit à la loi dans ce qui est juste, il prospérera. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les juifs religieux étaient devenus terriblement légalistes. Les religieux attaquèrent Jésus faussement combien de fois à cause du sabbat. Après 7 jours de travail dans la création, Dieu s'est arrêté de toute son œuvre. Et il s'est reposé, car Dieu vit que tout cela était bon. L'homme est appelé à participer à cette bénédiction du repos et à interrompre aussi son travail en ce jour, sanctifié par lui, c'est-à-dire rendu saint par lui. Ce jour de dimanche est un jour rendu saint par Dieu. Voilà. Ce commandement n'est pas une opinion, mais un aspect indispensable à la création. Il est un rythme de vie voulu par Dieu. Vous le brisez, vous en subirez les conséquences. Le rejet de ce rythme voulu par Dieu est une cause de souffrance et de maladie. Vous rejetez ce jour du repos pour pouvoir travailler double, pour pouvoir gagner double, vous le payerez. Ça se portera sur votre physique et votre déséquilibre physique et mental et intellectuel. Nous, hommes, nous créons toutes sortes de déséquilibres dans notre monde. Nous déséquilibrons le monde et les lois de Dieu. Nous le déséquilibrons par la guerre, causant la mort de milliers d'hommes et de femmes pour rien, simplement pour nos ambitions. Causant la violence, causant la famine, causant des millions de déplacés malheureux dans leur peur et leur stress et leur angoisse. Et ensuite, nous accusons Dieu et nous disons, Comment laisse-t-il de telles choses arriver? Comment est-ce que Dieu peut permettre? Permettre? Quel mauvais mot là! Peut permettre les guerres, peut permettre les famines, peut permettre que des milliers d'enfants meurent de faim. Peut permettre? Dieu ne l'a jamais permis. Il est la conséquence du déséquilibre que vous, hommes, vous avez provoqué. Nous avons brisé l'ordre de la création. Nous avons abusé de la nature. Nous avons violé les lois de l'environnement. Manipulé la génétique. Nous avons inondé nos terres de pesticides. Ce sont des choses qu'on ne voit pas encore ici. Mais comment est-ce que ça va se passer lorsque le pays aura retrouvé la paix et la prospérité? Vous savez que la terre devait avoir du repos. Pendant 7 ans, 6 ans, on la cultive et pendant une année, on la laisse en friche. Ça, c'est la loi de Dieu. La loi de la culture naturelle. Mais les hommes, avec tout leur engrais chimique, épuisent la terre. Épuisent la terre avec tous leurs pesticides qu'ils mettent contre les rongeurs et autres. Ils empoisonnent les eaux souterraines. Et après, l'eau n'est même plus comestible, elle est empoisonnée. Et on tire de la terre et on la fait produire artificiellement. On lui redonne de l'azote, on lui redonne toutes sortes de produits qu'on met là-dedans. Et on mélange, et les légumes poussent, et ils sont beaux. Magnifique, magnifique, mais on ne la laisse pas reposer. Et on empoisonne la terre, on amène le déséquilibre. Après 6 ans d'exploitation, 1 an de jachère, c'est ce que la Bible dit. Et désormais, nous sommes empoisonnés par nous-mêmes. Nous sommes empoisonnés par nos centrales nucléaires. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Parce que vous lisez les journaux, mais ici, il n'y a pas de centrale nucléaire. On ne sait pas si un jour, on va découvrir qu'il nous faudra une centrale nucléaire. Une menace constante, provoquant des catastrophes énormes et détruisant des milliers de vies. Et nous blâmons Dieu et nous disons, pourquoi Dieu laisse faire? Nous avons violé l'ordre de la création. Les hommes sont de plus en plus malades, déséquilibrés dans leur corps et leur esprit. Le cancer détruit des milliers et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. L'autre jour, je recevais un email des États-Unis de quelqu'un que je connais pas et qui me raconte le cas d'un enfant de 5 ans qui a un cancer dans sa tête. Priez, envoyez à tout le monde cet email, à tous ceux que vous connaissez pour qu'on prie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi un enfant de 5 ans qui a un cancer dans la tête? C'est le résultat de nos violations de les lois de Dieu avec tous les produits chimiques que nous introduisons partout. Je suis content d'être au Congo. On mange naturel au Congo. Mais oui, notre monde dit civilisé est pollué, mes frères. Et nous blâmons Dieu. Les hommes sont de plus en plus malades. Et ensuite, ils prennent des médicaments de toutes sortes, d'antidépressifs, de stimulants, de drogues, d'alcool, de tabac, qui détruisent nos cerveaux, nos poumons, et nous devenons des esclaves, et nous demandons pourquoi Dieu nous fait cela. Ce commandement nous fait voir qu'il y a un rythme, une marche à suivre, un modèle dans tout ce que Dieu a fait. Nous devons trouver un équilibre et le respect des lois de Dieu et y obéir. Alors il y aura harmonie et santé. Matthieu 11, 29, il est dit. Prenez mon joug sur vous. Mon joug, c'est-à-dire ma loi, les obligations auxquelles je veux que vous vous soumettiez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mes instructions, vous avez là ces instructions dans ma parole. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas là pour vous imposer. Je ne suis pas là comme un dictateur, vous devez. Je suis là pour vous avertir, car je vous aime comme un père ses enfants. Et le résultat sera, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez? Le repos que nous cherchons, nous pouvons le trouver en Christ. et aussi en ce jour de repos, du sabbat. C'est un temps de souvenir. Notre mémoire joue un rôle important en notre faveur. Souviens-toi, est-il dit, du jour du repos. Ça, ce sont les premiers mots. Souviens-toi, les premiers mots de ce commandement. Si vous ne pouvez vous souvenir de votre propre nom, de vos amis, de vos parents, de vos habitudes, de votre adresse, vous n'êtes plus vous-même. Ceci arrive lors d'un accident, tout à fait une amnésie complète. Même un homme qui a une grande connaissance, un grand professeur, il a eu un accident, il ne sait même plus écrire, vous m'entendez? Il a tout perdu, tout, absolument tout. Il faut tout le rééduquer. Et c'est encore plus difficile que quand il était un enfant. Donc, cet homme-là n'est plus lui-même. Le souvenir, la mémoire fait partie de la personnalité. Et est des plus nécessaires à une vie normale. Chaque juif se souvient de l'Exode, et de l'expérience du désert, et de l'alliance de son Dieu avec Abraham en leur faveur. Et c'est cette mémoire qui a fait d'eux un peuple qui n'est jamais assimilé jusqu'à maintenant. Car ils se souviennent. Dieu a dit, tu te souviendras. Toutes leurs cérémonies et tous leurs rites sont tirés et basés sur leur passé. Et ceci les a gardés tels qu'ils sont, jamais assimilés. Souvenez-vous, vous étiez esclaves. Souvenez-vous du temps de l'affliction et des troubles. Souvenez-vous comment Dieu vous a amené de l'esclavage à la liberté, à travers le désert. Souvenez-vous comme il a pourvu pour le pain, pour vous, dans le désert. Souvenez-vous comme la colonne de nuée vous a conduit et comme la colonne de feu vous a éclairé. Souvenez-vous, Deutéronome 5, 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne d'observer le jour du sabbat, car c'est un jour de souvenir. Et pour nous aussi, chrétiens, dans cette église ici, nous venons ici pour nous souvenir que nous étions esclaves de Satan, nous souvenir qu'il nous a fait passer par le désert et que nous allons vers le pays de la promesse dans lequel nous ne sommes pas encore rentrés. Nous devons nous souvenir qu'à cause du sacrifice de Golgotha, il y a possibilité de vaincre Satan qui nous combat dans ce désert. Les Amalekites et les Moabites et le roi de Bazan, comme cela l'a été pour Israël. Il est avec nous. Souviens-toi, je suis avec toi. Je te ferai passer le Jourdain et tu hériteras du pays de la promesse. C'est pour cela que en ce jour où nous sommes ici ensemble, pour donner un temps à part et nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, pour avoir un temps de repos pour nos âmes, un renouvellement dans notre esprit. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qu'il t'a sorti de l'esclavage dans lequel tu étais. Nous devons nous souvenir continuellement comme Dieu, par Christ, est venu nous délivrer de l'esclavage de Satan. Il est venu pour libérer les captifs. Le pain et la coupe que nous prenons à la communion, c'est encore un souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Le repos, ne le méprise pas. Et pendant ce temps du repos, souviens-toi. Baissons la tête. Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, tu nous enseignes et tu nous parles. Tu nous parles encore aujourd'hui de notre civilisation active, suractive, de notre civilisation où nous cherchons toujours à gagner et à attraper quelque chose quelque part. Nous avons oublié le temps du repos qui a été prescrit. Du temps que tu as voulu que nous mettions à part pour toi. Du temps dans lequel nous sommes appelés à nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, afin de faire de nous un peuple homogène, de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute tribu, mais un seul peuple homogène de ceux qui ont cru dans le sacrifice de Golgotha et qui sont sauvés. Merci Seigneur, aide-nous à respecter le jour du repos tel que tu l'as voulu. Aide-nous, Seigneur, à bénéficier de ta part de tout ce que tu nous demandes. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui, dans leur vie, ont abusé et n'ont pas pris ce repos. Et à cause de cela, ils ont péché. Peut-être ils ont besoin aujourd'hui de demander pardon à Dieu pour leur violation de ce commandement, qu'ils se lèvent maintenant. Seigneur, j'ai violé ton commandement bien des fois. Seigneur, j'ai fait le marché le dimanche. Seigneur, j'ai fait des affaires le dimanche. Seigneur, j'ai travaillé le dimanche. Seigneur, je n'ai pas respecté le jour et je ne me suis pas souvenu de toi. J'ai abusé. Seigneur, j'ai voulu faire des affaires le dimanche. Nous devons revenir à ces principes qui autrefois, je me souviens de mon enfance, étaient des principes sacrés. Les enfants de Dieu, les chrétiens, refusaient même de faire des championnats le dimanche, parce que c'est le jour de Dieu et le jour du repos. Aujourd'hui, personne ne s'inquiète de cela. Au contraire, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons violé ton commandement et nous avons violé ta loi. Je te demande, Seigneur, de pardonner à ces amis qui se sont levés à cette heure. Ils se sont levés parce qu'ils ont compris eux-mêmes, par ta parole, qu'ils ont violé ce commandement et que ce jour du repos, ils l'ont violé. Et que tu n'as pas pu les bénir, soit physiquement, soit spirituellement, soit intellectuellement parlant, parce qu'ils n'ont pas observé ton commandement du jour du repos. Pardonne-leur, Seigneur, et permets, Seigneur, mon Dieu, que ces violations qu'ils ont commises, Seigneur, leur soient pardonnées. Lave-les dans leur péché, Seigneur. Apprends-leur à respecter ta loi et tes commandements. Merci, Jésus. Reprenez vos places. Nous voulons te prier aussi pour cette offrande, Seigneur, et te demander de bénir. Tu nous as bénis dans notre travail, dans nos emplois. Le salaire n'était pas énorme, Seigneur, mais une dixième partie de ce salaire t'appartient. C'est pour cela que nous te demandons de bénir ceux qui donnent maintenant et de retourner ce qu'ils te donnent, Seigneur, en bénédiction de tout genre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.